Vous êtes sur RTL.
RTL Midi.
Le 12h.
Pascal Pro, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'était avec vous Céline Landreau, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, ces milliards qui vont faire couler beaucoup d'encre après la BNP hier. C'est Total Energy qui annonce des bénéfices nets records l'an dernier, plus de 19 milliards d'euros pour le groupe pétrolier. Alors que dans le même temps, une grande partie de ses raffineries est touchée chez nous par une grève contre la réforme des retraites. Des résultats qui peuvent choquer jusqu'au sommet de l'État. Le gouvernement réclame à l'instant un geste et une nouvelle ristourne carburant. Des géants qui font des bénéfices records en pleine crise, dans un climat social tendu, sujet explosif, mais des entreprises qui réussissent, ça reste une bonne nouvelle. On y reviendra longuement dans cette édition. À suivre aussi la colère des agriculteurs. 500 tracteurs ce matin dans les rues de Paris pour dénoncer des contraintes trop fortes, notamment sur l'utilisation des pesticides et insecticides. On sera dans une dizaine de minutes avec Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA. La visite surprise de Volodymyr Zelensky à Londres. Le président ukrainien est également attendu demain à Bruxelles. Et puis du sport et LeBron James, légende du basket, la star des Lakers, a battu cette nuit le record de points en NBA.
RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL Midi, un jour chez vous en France.
Et aujourd'hui, direction la Meurthe-et-Moselle où des agents d'Enedis s'opposent à la réforme des retraites en rendant l'électricité gratuite. À midi 20, RTL Midi, votre ville a plongé dans votre quotidien. Aujourd'hui, la difficile utilisation des transports en commun pour les personnes en situation de handicap. Enfin, juste avant 13h, votre rendez-vous culture LVT Midi. Et aujourd'hui...
Je suis le maître du monde ! Wouhou ! Wouhou !
25 ans après, Titanic revient en salle et c'est aussi l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr. Avez-vous vu plusieurs fois ce film Titanic ?
D'où cette question, est-ce qu'il y avait de la place sur la planche ? Vous avez peut-être écouté la chronique de Florian Gazan, je vous invite à la réécouter, qui était formidable ce matin parce que James Cameron a été obligé de se justifier, de retourner la scène pour montrer que il n'y avait pas de place sur la planche.
Il y en avait, mais que ça n'aurait pas forcément sauvé James.
Pas pour deux.
La météo avec vous aujourd'hui, Peggy Broche, bonjour.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi ?
C'est encore un temps bien ensoleillé, mais un peu frais au nord.
Merci Peggy, la météo complète à la fin du journal.
RTL Midi.
Nouvelle journée de grève aujourd'hui chez Total Energy où les opposants à la réforme des retraites poursuivent donc le mouvement dans la plupart des raffineries du groupe. Un groupe qui, on l'a appris ce matin, a enregistré un bénéfice net record l'an passé. Plus de 19 milliards d'euros, c'est du jamais vu. Et forcément, sur les piquets de grève comme celui de Donges en Loire-Atlantique où l'on vous retrouve Nicolas Bobby, cette nouvelle est très commentée.
Absolument, la colère gronde, il y a même des pneus qui brûlent, qui dégagent une fumée noire. L'air est irrespirable, la fumée bien sûr se dirige dans ma direction, mais ça c'est plutôt face à la réforme des retraites. Popeye, qui est l'un des opérateurs que je viens de rencontrer, n'est pas content du tout, il est en colère et pour lui ses bénéfices records, c'est une pilule très dure à avaler.
Bah, on aimerait bien avoir notre part du gâteau aussi, quoi. Mais on mérite clairement, avec notre espérance de vie qui est diminuée par 7, par les 3-8 et le fait qu'on manipule des produits dangereux, c'est normal qu'on ait un salaire plus élevé, quoi.
Le délégué CGT de la raffinerie Total de Donges, Fabien Privé-Salane, n'est pas surpris par ces incroyables bénéfices.
Les profits Total colossaux, les salariés de Total Energy, ils sont habitués. Hein. Vous savez, ça fait déjà 15 ans que les milliards s'accumulent. Ceux qui en profitent pleinement, ce sont d'abord les actionnaires et puis les membres du comité de direction, plus que les salariés. Il y a des dispositifs qui sont existants en termes d'épargne salariale, etc. Donc le mot rien serait trop fort. Tout ça, ça se passe quand même au détriment des conditions de travail et de l'emploi, parce que je rappellerai que même si cette entreprise est multimilliardaire, elle continue à supprimer des emplois en France.
Alors bien sûr, j'ai posé la question au délégué syndical, peut-on s'attendre à une ristourne à la pompe ? Il me renvoie vers la direction de Total Energy. Ici, cette colère va se poursuivre un petit peu cet après-midi. Les dockers sont d'ailleurs venus donner un petit coup de main.
Merci Nicolas Bobby à Donges en Loire-Atlantique pour RTL. Et cette ristourne carburant que vous évoquiez à la fin de votre reportage, c'est en tout cas une demande, on le disait en titre à l'instant, du gouvernement. C'est ce qu'a expliqué Olivier Véran à l'issue du Conseil des ministres. On y reviendra évidemment plus longuement dans le journal de midi et demi.
Ces images de vidéosurveillance filmant un vol dans sa boutique ont fait le tour des réseaux sociaux. Un commerçant d'Amiens sera reçu cet après-midi par Olivier Véran.
Oui, janvier, Jérôme Jean, qui tient une boutique à Amiens, diffusait en effet les images filmées par ses caméras dans son magasin, images sur lesquelles on pouvait voir des personnes voler certains articles. Les visages n'étaient pas floutés, leur diffusion était donc illégale. Mais pour Jérôme Jean, c'est le seul moyen de mettre fin à des vols trop fréquents. Il veut donc convaincre cet après-midi le porte-parole du gouvernement de changer la réglementation.
Il y a un tel ras-le-bol qu'aujourd'hui, vous avez de plus en plus de commerçants qui ne portent plus plainte parce qu'ils perdent du temps et parce qu'en plus, ils savent que de toute façon, ça n'aboutira sur rien. Ce que nous souhaitons, c'est qu'aujourd'hui, en cas de flagrant délit, et uniquement dans cette condition-là, permettre dans un dispositif encadré la diffusion des images de vidéosurveillance sur les réseaux sociaux. Peut-être par exemple sous la forme d'un appel à témoins, avec un message par exemple du type « Si vous apercevez ces individus, n'intervenez pas, faites le 17 ». Les voleurs sont pris la main dans le sac. Il n'y a pas de présomption d'innocence. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut mettre en place un vrai dispositif. Il y a énormément de commerçants derrière qui attendent une prise de décision de la part d'Olivier Véran.
Propos recueillis pour RTL par Hermine Leclèche. Le chausseur André, à nouveau en redressement judiciaire, repris par Un Monde Neuf. André, l'enseigne plus que centenaire, avait été la première entreprise de la distribution à avoir été placée en redressement judiciaire à cause de la crise du Covid et de la longue fermeture de ses magasins.
RTL Midi.
Volodymyr Zelensky est au Royaume-Uni.
Le président ukrainien en visite surprise à Londres aujourd'hui avant de se rendre demain à Bruxelles. Volodymyr Zelensky qui effectue là son deuxième voyage à l'étranger depuis le début de la guerre il y a presque un an pour évoquer l'aide britannique et européenne apportée à son pays. On y reviendra dans le journal de midi et demi. Plus de 11 000 morts désormais au surlendemain du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie. Le bilan humain de la catastrophe ne cesse de s'alourdir. Les secours se déploient toujours avec le renfort de l'aide internationale pour extraire survivants et victimes des décombres, pour éteindre aussi cet énorme incendie provoqué par des conteneurs dans le port d'Iskenderun. C'est au sud de la Turquie où un énorme nuage potentiellement toxique s'élève aujourd'hui dans le ciel, Timur Özturk.
Oui, la ville d'Iskenderun où je me trouve est surplombé par un immense panache de fumée noire visible à des dizaines de kilomètres. C'est le port industriel de la ville qui brûle. L'incendie s'est déclaré dans les conteneurs sur les quais après le séisme. Sur place, plusieurs camions de pompiers sont toujours à l'œuvre. Les lances à eau arrosent les flammes. Un agent sur place m'affirmait que l'incendie est désormais sous contrôle. Sur le port, près des hangars, j'ai rencontré des chauffeurs routiers bloqués sur place depuis le tremblement de terre. Des Iraniens qui devaient décharger leurs camions à Iskenderun, alors que les routes de la région sont toutes embouteillées par les voitures des réfugiés qui quittent la zone et les véhicules des secours qui la rejoignent. Ils attendent encore l'autorisation de leur employeur pour quitter les lieux, malgré les fumées qu'ils inhalent depuis trois jours et dont ils espèrent qu'elles ne sont pas trop toxiques.
Timur Özturk en Turquie pour RTL.
Et cette question sportive, à présent, LeBron James est-il le plus grand basketteur de tous les temps ? On la posera au plus grand journaliste de tous les temps, Nicolas Georgerot, qui
tout.
Est là.
Pas
peut-être.
Du tout.
LeBron James.
Donc la superstar des Lakers, qui est en tout cas depuis cette nuit le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, le championnat américain. Il a dépassé la barre mythique de 38 387 points de Karim Abdul-Jabbar. Il signe donc de l'importance de cet exploit, Nicolas Georgerot, le jeu en plein match s'est arrêté après le panier décisif.
Oui, la NBA sait très bien organiser ce genre de moment. Il reste 10 secondes à la fin du troisième quart-temps contre Oklahoma. LeBron James, donc avec son équipe des Lakers, vient alors d'atteindre cette barre des 38 388 points. Le terrain est envahi durant 20 minutes. Le patron de la NBA, Adam Silver, s'empare du micro.
LeBron, you are the NBA's all-time scoring leader.
Le meilleur marqueur de tous les temps. On pensait ce record inatteignable. Karim Abdul-Jabbar, l'ancien détenteur de cette marque depuis près de 40 ans, est présent à côté de LeBron James, qui reçoit symboliquement un simple ballon de basket en guise de passage de témoin. LeBron James, 38 ans, a donc remercié toute sa famille, ses proches, 20 ans au plus haut niveau, longévité exceptionnelle. Certains avaient déboursé plus de $24,000 pour une place dans la salle afin de vivre ce moment historique. historique.
Oui, les tarifs des places aussi sont mythiques. Merci Nicolas Georgerot pour RTL. Le sport, ce sont aussi les huitièmes de finale de la Coupe de France de football. Aujourd'hui, début des rencontres à 18h15. Angers-Nantes, Lyon-Lille, Auxerre-Rodez, Paris-FC-Annecy, Toulouse-Reims. Le petit poussé Vierzon reçoit Grenoble. Et puis ce soir, la grande affiche, un classique. Marseille-Paris au Vélodrome à 21h10. Je n'en ai donné que 7. Je sais que vous êtes vigilant, Pascal. C'est parce que le huitième match, il aura lieu demain entre Lorient et Lens. La météo, Peggy Broche, c'est froid, c'est sec.
Oui, c'est sec, c'est beau, c'est ensoleillé quasiment partout. Alors je dis quasiment parce que il y a quelques nuances du côté des Pyrénées-Orientales où ça reste gris avec encore un peu de neige à 900 mètres. On a aussi quelques averses résiduelles sur les plaines du Roussillon cet après-midi avec quelques nuages. Et puis c'est perturbé sur l'est de la Corse avec des averses et de la neige à basse altitude. Sur l'ouest, on a du soleil, puis toujours un petit peu de vent quand même sur la Méditerranée, mais ailleurs, plein soleil avec des températures qui sont un peu justes, c'est vrai, sur la moitié nord. On est légèrement en dessous, 3 degrés à Langres, bon là on est bien en dessous, je vous l'accorde, 5 à Strasbourg cet après-midi, 6 à Orléans, 7 à Paris et Lille, 8 à Rennes, 9 degrés à Nantes, 10 à La Rochelle, 11 à Brest et Limoges, 12 à Bordeaux et Montauban.
Merci Peggy.
RTL Midi, un jour chez vous.
Un jour chez vous, effectivement, puisque nous nous baladons à cette heure-là chaque jour en France. Et là, nous allons donner de l'électricité gratuite, peut-être.
Alors nous, pas tout à fait, mais on va retrouver Samuel Goldschmidt en Meurthe-et-Moselle. Bonjour Samuel.
Bonjour.
À Blénaud, les Ponts à Mousson, exactement, pour une action Robin des Bois, avec donc des justiciers de l'électricité, si l'on peut le dire comme ça, des agents Enedis qui, pour protester contre la réforme des retraites, ont décidé de rendre l'électricité gratuite dans le foyer communal.
Oui, ça s'est fait encore de nuit. Tôt ce matin, un barnum stratégiquement placé pour protéger les boîtiers du regard, des militants qui se glissent derrière un paravent et l'opération est réalisée. Pascal Test, le secrétaire CGT Énergie de Meurthe-et-Moselle, nous fait la visite.
Alors techniquement, alors, c'est une opération de dépose de compteur, hein, puisque effectivement on a un coffret qui est accessible à ce niveau-là. Donc l'objectif c'est de couper le courant, hein, pour déposer le compteur et pour reposer un chat.
Hein, c'est celui qu'on voit là.
Voilà, oui, exactement. Là. On remet le disjoncteur en route et puis voilà, l'opération est terminée. Alors j'en refixe la porte quand même pour protéger dès l'accès. Voilà. Donc voilà le compteur. Hein, c'est un compteur triphasé, Linky. Les compteurs là, on va les rassembler dans toutes les opérations Robin des Bois et on ira les remettre à la préfecture pour évoquer aussi notre revendication qui est sur la suppression des régimes spécifiques.
Donc le courant est désormais gratuit pour le foyer Ambroise Croizat qui assure la cantine des écoles primaires, les repas des personnes âgées de la maison de retraite, l'accueil de différents groupes. La CGT vise vraiment l'aspect Robin des Bois. Julien Hézard est le secrétaire de l'Union départementale.
Soit on les passe en gratuité, soit on fait des coupures à droite à gauche, et les coupures c'est pas très populaire. Donc je trouve que amener cette énergie gratuite ici dans un foyer de personnes âgées qui est aussi la cuisine centrale de la collectivité, et puis un foyer qui s'appelle Ambroise Croizat, qui quand même Ambroise Croizat, fondateur de la sécurité sociale, militant CGT, la retraite c'est son invention. Effectivement, il y avait plein de sens à être ici aujourd'hui.
Samuel, la CGT, on imagine, ne va pas en rester là.
Alors non, il va y avoir des actions Robin des Bois, en fait, pendant toute la discussion parlementaire, en attendant peut-être autre chose.
Les agents sont un peu énervés actuellement. Alors effectivement, il y a tout le débat sur l'augmentation de l'âge de départ en retraite, le nombre d'annuités. Mais nous, nos régimes spécifiques, la suppression du statut, va être un élément important qui va crisper. Et effectivement, le syndicat est là aussi pour organiser des actions pacifiques. Mais pour autant, on ne s'interdit rien sur d'autres types d'actions qui pourraient être un peu plus dures et un peu plus ciblées. Mais ce ne sera pas pour maintenant.
Voilà, il faut garder des munitions en réalité pour durer dans le temps.
Merci beaucoup Samuel Goldschmidt en Meurthe-et-Moselle donc pour RTL ce midi.
La colère des agriculteurs qui sont à Paris, on en parle dans une seconde.
Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes la minute.
Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.
Un cortège de tracteurs, 500 dans les rues de la capitale ce matin. Les agriculteurs se mobilisent pour dénoncer les contraintes qui pèsent sur la profession. Bonjour Jérôme Despet.
Bonjour.
Vous êtes le secrétaire général de la FNSEA en direct sur le lieu de la manifestation, donc aux Invalides à Paris. Les contraintes que vous dénoncez et en premier lieu l'interdiction d'utiliser les insecticides néonicotinoïdes pour la culture de la betterave. Cette décision européenne, c'est la goutte de trop, celle qui a fait sortir les agriculteurs et leurs tracteurs aujourd'hui.
Oui, c'est effectivement la goutte de trop, puisqu'on est confronté à de plus en plus donc, d'interdictions pour protéger nos cultures. C'est ce que vivent les producteurs donc, de betteraves, qui, par un puceron, peut permettre d'anéantir l'ensemble de la filière et les 400 000 hectares de betteraves donc, dans notre pays.
Mais c'est monsieur effectivement Despé, pour... le couperet, monsieur Despé, est tombé effectivement le 23 janvier. Jusque-là, il y avait des dérogations pour vous permettre de continuer à utiliser ces produits. C'est donc que l'interdiction, elle menaçait déjà. Pourquoi ne pas l'avoir anticipé ? C'est vraiment impossible de travailler sans ces produits-là ?
Non, on essaie de l'anticiper. C'est pour ça qu'on a demandé des moyens de la recherche pour trouver donc des alternatives. Vous savez, c'est ce que souhaitent donc les agriculteurs. C'est pas d'interdiction sans solution. Et c'est bien ça. Donc le slogan, c'est souvent, lorsqu'on parle de souveraineté alimentaire, de conditions donc de production, c'est qu'on nous donne les moyens donc de produire plutôt que d'importer des produits qui ne sont pas produits dans les mêmes conditions exigé pour les producteurs français ou pour les producteurs européens. Et on ne peut pas être donc dans des impasses, et c'est pour ça qu'on demande à la recherche de trouver donc des alternatives, donc des solutions. On n'a pas ces alternatives, on n'a pas ces solutions-là, parce que les moyens ne sont pas donc suffisants. On nous avait promis qu'on ne resterait pas dans des impasses donc techniques, et la résultante, c'est qu'on nous met aujourd'hui dans ces impasses-là. Et c'est pour la betterave, c'est pour la cerise, c'est pour la pomme de terre, c'est pour les endives, c'est pour de nombreux secteurs de production.
Monsieur Despé, d'abord, la France est le premier producteur européen de betteraves sucrières. C'est le quatrième exportateur mondial de sucre. Le pays compte 400 000 hectares de culture et la production française, c'est 34 millions de tonnes. Mais si j'ai bien compris, les Européens ont le droit d'utiliser un insecticide alors que vous, en France, on ne peut pas l'utiliser comme s'il y avait un excès de zèle de la réglementation française.
Oui, c'est bien ça, c'est au travers donc, d'une loi à l'époque Pompili qui a
c'est ça qui est important de dire, parce que c'est, l'Europe a parfois bon dos. C'est pas l'Europe, c'est un excès de zèle français. Les pays européens ont le droit d'utiliser un insecticide que vous n'utilisez pas.
Effectivement, des interdictions, c'est ce qu'on appelle de la surtransposition. C'est ce que nous avons donc vécu. Nous, c'était effectivement un insecticide au travers de l'enrobage au moment des semis pour la betterave. D'autres pays donc européens peuvent avoir des techniques de pulvérisation pour protéger donc leur culture. Et c'est ce qu'on dit.
Et ça, c'est important vraiment de le dire, hein, parce que c'est une nouvelle fois l'administration que vous ciblez et on peut entendre votre revendication.
Mais ce qu'on veut juste dire, et on le dit au gouvernement, comme aux élus, aux parlementaires, au président de la République, on aura bientôt le salon de l'agriculture. On ne peut pas nous dire qu'il faut cette souveraineté alimentaire. Il ne faut pas d'interdiction sans solution et en même temps se mettre des surtranspositions et des contraintes donc, supplémentaires. Nous faisons beaucoup d'efforts au travers de la recherche, trouver des alternatives, trouver de la résistance pour être moins dépendants des produits phytopharmaceutiques. Mais ce que nous ne pouvons pas donc accepter, c'est que la France soit de nouveau le seul pays à ne pas pouvoir produire, se donner donc les moyens donc de produire.
Ah, évidemment, voilà. Et ça s'entend.
Et c'est le message fort qu'on pouvait passer donc aujourd'hui et qu'on va faire passer dans toutes les régions d'ici le salon de l'agriculture.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Despé. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la FNSEA. Vous étiez en direct et on entendait derrière vous la manifestation parce que vous êtes aux Invalides et vous étiez également sur le périphérique ce matin. La pause.
Et dans un instant, on va parler de la difficile utilisation des transports en commun par les personnes en situation de handicap. Vous verrez que les choses ne s'améliorent pas très vite.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité.
RTL Midi, votre vie.
RTL, votre vie, car l'info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui,
70% des gares accessibles fin 2025 aux personnes en situation de handicap. C'est l'objectif fixé par les autorités, mais on en est encore loin. Et pour en parler avec nous, Jean-Michel Royer, président de l'association Mobilité Réduite et cofondateur de la galaxie Mobilité Réduite. Bonjour.
Bonjour, Céline Landreau.
70% des gares accessibles fin 2025, c'est-à-dire dans moins de 2 ans. Est-ce qu'aujourd'hui cet objectif, il vous semble atteignable ?
Non.
On en est où ?
C'est pas brillant. D'abord, je ne vois pas pourquoi 2025, alors que normalement, d'après la loi et les schémas directeurs d'accessibilité programmés concernant les transports, ça doit être fin 2024. Alors déjà, il y a un petit souci.
On sait aujourd'hui combien de gares sont complètement accessibles ?
Ah, personnellement, là, tout de suite, je ne pourrais pas vous le dire. Je n'ai pas pris les chiffres en main. Puis ça dépend, il y a gare et gare. Si vous prenez sur tout le territoire national, il y a beaucoup de retard. En Ile-de-France, il y a normalement, si ma mémoire est bonne, 133 gares qui devraient être accessibles. Donc c'est en cours. Et au niveau national, désolé, je n'ai pas les chiffres là sous les yeux. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Mais ce que je sais de mes retours, de tous nos compères qui sont un petit peu partout éparpillés en France, c'est que ça prend énormément de retard. Et même quand une gare est dite accessible, on a de gros soucis pour les utiliser. Parce que entre déclarer une gare accessible et voir réellement l'accessibilité, c'est-à-dire le respect de la réglementation, ce sont deux choses différentes.
Quels sont les moyens de transport qui sont les plus accessibles ?
Alors, à l'heure actuelle, ce que je peux vous dire, les moyens de transport en commun les plus accessibles, je dirais tout de suite le tram. Pourquoi ? Parce que tout est récent, c'est fait à niveau, il n'y a pas d'ascenseur, pas d'escalier, quoi que ce soit. Et comme vous pouvez le voir à Paris, si vous êtes avec une poussette ou un fauteuil roulant, vous êtes carrément à niveau. Il n'y a pas ce qu'on appelle de lacune verticale ou horizontale qui vous empêcherait de rentrer dans le véhicule. Voilà, pour moi, c'est le tram.
Qu'est-ce qui manque pour les autres moyens de transport ? On a parlé un petit peu des gares, il y a le métro. C'est que ça coûte trop cher de faire des travaux, de mettre par exemple des ascenseurs partout ?
Coûte trop cher, c'est toujours ce qu'on nous dit. On nous dit que, comment dirais-je, par exemple à Paris, le métro est trop ancien, ce qui est faux, parce que le métro de Londres est beaucoup plus ancien.
Et le métro, c'est un drame, disons-le, pour les handicapés.
Ah, mais bien sûr, c'est un drame.
Ils ne peuvent pas descendre sur le quai. Il n'y a pas d'ascenseur. Il faudrait des ascenseurs à toutes.
Non seulement il faudrait des ascenseurs, mais quand il y en a et que nous puissions descendre sur le quai, ce qui est pour la ligne 14 et la ligne 1, puisque ce sont les deux seules lignes à peu près accessibles. Quand vous prenez le métro, vous savez quand vous partez, mais vous ne savez pas comment vous arrivez, parce que si à votre destination, l'ascenseur est inopérant, il est en panne, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, dans les grosses stations, il y a d'autres ascenseurs un petit peu plus loin. Dans les plus petites, vous n'avez plus qu'à reprendre le métro, aller une ou deux stations plus loin, et puis revenir en arrière.
En fait, il n'y a pas de volonté politique, il n'y a pas de vision à long terme d'une société. Parce que si demain, on veut que les handicapés aient les mêmes droits que les autres, ou en tout cas que la vie leur soit aussi facile, j'ai envie de dire, on peut faire des efforts sur le plan financier.
Non seulement sur le plan financier, mais ne serait-ce que la volonté, ne serait-ce que le sérieux. À l'heure actuelle, on a beau mettre de l'argent, moi je me demande si on ne gaspille même pas l'argent. Mais il faut que les décideurs, les maîtres d'ouvrage, les architectes, tout le monde s'y mette une bonne fois pour toutes, et que l'on mette en place les règles qui existent. C'est surtout ça que l'on ne trouve pas. Par exemple, pour tous les arrêts de bus, les points d'arrêt de bus, vous n'avez pas très rarement des points d'arrêt de bus qui sont accessibles correctement selon les règles.
C'est ça, en fait, la réglementation existe. Le problème, c'est qu'elle n'est pas suffisamment appliquée, et en tout cas que les investissements ne suivent pas pour la faire appliquer partout.
C'est ça, voilà. Et il faut dire que les investissements et que le travail sur les arrêts de bus, par exemple, c'est saucissonné entre trois choses. La région qui finance, les communautés de communes ou d'agglomérations qui s'occupent du quai et puis de l'abribus. Et puis vous avez la commune qui doit faire le trottoir et tous les environnements. Alors il faut un petit peu organiser entre toutes ces personnes-là pour que la règle soit respectée. Et le problème, c'est que très souvent, les gens, ils ne connaissent pas la règle. Le problème est là.
Merci beaucoup.
Ou très peu.
Jean-Michel Royer, on voit qu'il y a encore un gros travail de pédagogie à faire. Je rappelle que... Pardon ?
Juste une petite chose, si vous permettez. Pour toutes les personnes qui souhaitent connaître la réglementation, nous avons mis en place une application gratuite qui s'appelle Accessible PMR, que vous pouvez télécharger sur Apple Store ou sur Google Play.
C'est dit.
Elle est entièrement...
Merci beaucoup.
Et profitez-en.
Merci beaucoup Jean-Michel Royer, président de l'association Mobilité Réduite.
L'info revient dans une seconde avec Céline.
Céline Landreau, Pascal Pro.
RTL midi jusqu'à 13h. RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, merci de rester avec nous. Si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL Midi, il est 12h30.
RTL Midi.
Le 12-30.
Céline Landreau et Pascal Pro.
L'édition de la mi-journée avec Céline.
19 milliards d'euros de bénéfices nets, un record pour Total Energy et une possible ristourne carburant à la clé pour les automobilistes français. C'est en tout cas ce que demande le gouvernement aujourd'hui après la publication de ces chiffres records pour le groupe pétrolier. Des profits qui choquent parfois en pleine crise économique. On y reviendra longuement après ce journal avec Martial You. À suivre aussi dans cette édition, un passage à tabac diffusé en direct sur un réseau social ou quand TikTok permet aux policiers de retrouver des meurtriers présumés. Ça se passe à Lyon. Maxime Lévy va tout vous expliquer. Volodymyr Zelensky à Londres aujourd'hui avant une visite à Bruxelles demain. Le président ukrainien qui appelle une nouvelle fois britannique et européen à aider son pays en pleine guerre contre la Russie. Et puis des supporters du 15 de France inquiets avant la rencontre du tournoi des Six Nations samedi à Dublin. Vont-ils pouvoir se rendre en Irlande? C'est pas sûr. L'aéroport de Dublin refuse actuellement de faire atterrir leurs avions. Juste avant 13h, votre rendez-vous culture LVT à midi. Nous sommes mercredi, on va parler cinéma. Aujourd'hui, 25 ans après, le film culte Titanic revient en salle. Stéphane Boutsock va venir nous en parler. Et puis c'est l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr. Avez-vous vu plusieurs fois le film Titanic? Et vous, bien Pascal, sûr. Combien?
Moi, je sais pas, 10 fois, j'ai dû le voir comme tout à chacun. Et tu te fais prendre à chaque fois. Et tu ne couches plus tard parce que le film dure longtemps.
Un peu plus de 3 heures dans mon souvenir, mais on va
vérifier. Ça finit toujours pareil, hélas. Faut-il davantage taxer les super profits? C'est une question qui revient. Vous pourrez donner votre avis entre 13h et 14h30 au 32-10.
La météo complète à la fin du journal, mais déjà un indice avec vous, Peggy Broche.
Un ciel bien dégagé, donc bien ensoleillé, mais froid au nord.
Merci Peggy.
Jusqu'à 13h.
RTL Midi.
Plus de 19 milliards d'euros de bénéfices l'an dernier pour Total Energy. Un record pour le groupe pétrolier qui affiche une santé insolente. Et en pleine crise économique, le gouvernement en profite donc aujourd'hui pour lui demander de mettre en place une nouvelle ristourne carburant pour les automobilistes, comme l'a expliqué à l'issue du Conseil des ministres tout à l'heure le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran.
Je comprends que le chiffre 19,5 milliards dans le contexte que nous connaissons puisse choquer et qu'à travers ce chiffre puisse se poser la question du fonctionnement ou des dysfonctionnements de l'économie mondiale s'agissant des très grands groupes. Total avait mis en place une ristourne à la pompe pour les Français, vous le savez, il y a quelques mois, qui s'est arrêtée il y a quelques semaines. Son PDG s'est dit lui-même ouvert à l'idée de remettre en place une ristourne prochainement, considérant les chiffres qu'il a réalisés, y compris en France. Nous souhaitons évidemment que tous les efforts puissent être faits pour réduire le coût du carburant à la pompe pour les Français.
20 centimes, 30 centimes.
Je ne vais pas vous faire un chiffrage, c'est pas à moi de le faire. Mais encore une fois, j'ai entendu la volonté de Total de mettre en place une ristourne et nous l'accueillons favorablement.
Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, avec William Galibert pour RTL. On reviendra sur ces bénéfices records de Total que l'on apprend aujourd'hui après ceux de la BNP hier. Dans cette période de crise, pourquoi nos géants se portent-ils si bien? Les explications avec Martial You.
Le gouvernement qui ne sait toujours pas sur combien de voix il pourra compter chez les Républicains pour voter sa réforme des retraites.
Oui, vous l'avez entendu ici même sur RTL hier. Aurélien Pradier continue de mener la fronde. La droite se déchire au grand jour et Éric Ciotti, le président du parti qui appelle lui à voter le texte, a beau se déployer pour tenter de colmater les brèches, elles apparaissent encore aujourd'hui béantes, Marie Mollet.
Oui, exactement, et Éric Ciotti se démène comme un diable pour tenter de remettre de l'ordre avec des réunions en cascade pour rappeler son parti à la cohérence, dîner des députés convoqués en urgence lundi soir, rendez-vous avec les sénateurs LR et un conseil stratégique rue de Vaugirard hier, pendant lequel le frondeur Aurélien Pradier s'est fait secouer comme un prunier par ses collègues. « C'est bon Aurélien, on a compris que tu voulais être président de la République », lui a lancé Jean-François Copé. Mais le député du Lot n'est plus le seul à irriter dans son parti. Tous les regards se portent désormais sur Laurent Wauquiez. Où est-il ? Quand va-t-il enfin parler ? Le candidat potentiel pour 2027 reste muet sur le dossier des retraites et certains députés de sa région sont même ouvertement opposés à la réforme. Il ne fait rien pour les retenir. Wauquiez joue les pompiers pyromanes, s'agace un élu. LR, donc en pleine crise, le parti voulait être au centre du jeu sur la réforme, être celui qui fait plier le gouvernement, mais il se retrouve affaibli. On est devenu illisible sur un sujet totem de la droite, déplore un député européen. Et je ne sais pas si l'on va s'en relever.
Marie Mollet du service politique d'RTL, merci.
RTL Midi.
C'est grâce aux réseaux sociaux qu'ils ont été reconnus et appréhendés. Deux hommes ont été interpellés à Lyon après le meurtre d'un homme le 3 février dernier.
Un passage à tabac, Maxime Lévy, particulièrement violent, diffusé en direct sur le réseau social TikTok.
Oui, vendredi dernier, sur leur téléphone portable, les internautes assistent en direct à des scènes insoutenables. On y voit un homme allongé sur le sol de son salon, à moitié nu, son corps est couvert d'hématomes, il vient d'être passé à tabac. Selon une source proche du dossier, la victime a même subi un viol à l'aide d'un objet. C'est le réseau social TikTok qui a d'initiative alerté la plateforme de signalement en ligne Pharos, ce qui a permis de remonter jusqu'au propriétaire du compte et de retrouver les deux auteurs présumés des violences mortelles. C'est en plein centre de Lyon que les deux hommes ont été interpellés. La police les retrouve dans le logement de la victime alors qu'ils dorment dans la chambre à seulement quelques mètres du corps sans vie de l'homme de 54 ans, toujours allongé sur le sol du salon. Une enquête a été immédiatement ouverte et confiée à la police judiciaire lyonnaise pour actes de torture et de barbarie en bande organisée.
Maxime Lévy du service police-justice d'RTL.
À quelques jours de l'anniversaire du début de l'offensive russe en Ukraine, visite surprise de Volodymyr Zelensky à Londres.
Le président ukrainien est arrivé au Royaume-Uni en fin de matinée, son deuxième déplacement à l'étranger depuis le début de la guerre. Marie Billon, il est actuellement à Downing Street pour évoquer un renforcement de l'aide britannique.
Oui, le Premier ministre Rishi Sunak a accueilli le président Zelensky à sa descente de l'avion. En fin de matinée, les deux hommes vont s'entretenir donc à Downing Street avant d'aller cet après-midi visiter un centre d'entraînement pour les troupes ukrainiennes dans le sud-ouest de l'Angleterre. Entre-temps, Volodymyr Zelensky aura rencontré le roi Charles III à Buckingham Palace et il va aussi s'adresser au Parlement de Westminster dans environ 30 minutes. Cette visite du président ukrainien est un moyen de raffirmer les liens et le soutien stratégique que le Royaume-Uni veut apporter à l'Ukraine. Londres vient d'ailleurs d'annoncer le renforcement des entraînements offerts aux troupes ukrainiennes sur le sol britannique. 20 000 individus en plus cette année devraient recevoir cette formation militaire qui est dispensée principalement par l'armée de terre britannique. Pour l'instant, près de 10 000 civils ukrainiens ont reçu cet entraînement, mais ce qui est nouveau aujourd'hui est qu'ils seront bientôt formés aussi au maniement d'avions de combat et l'entraînement va s'ouvrir immédiatement au corps de la marine ukrainienne. Londres va par ailleurs aussi envoyer des armes à longue portée en Ukraine et vient d'annoncer de nouvelles sanctions contre des proches du président russe Vladimir Poutine.
Marie Billon, correspondante de RTL au Royaume-Uni, et Volodymyr Zelensky, on le rappelle, est attendu demain à Bruxelles avec les représentants des pays européens.
Plus de 11 000 morts désormais, le bilan humain du site qui a frappé la Turquie et la Syrie lundi ne cesse de s'alourdir.
Et l'aide internationale se déploie en Turquie, notamment à Iskenderun, au sud du pays, où vous avez assisté, Timur Özturk, à une distribution ce matin d'aide alimentaire.
Dans les rues d'Iskenderun, on distribue des produits de première nécessité aux rescapés. Ils font la queue à l'arrière d'un camion, ça se bouscule un peu. C'est très tendu, on est au bord de la bagarre.
C'est normal que ce soit tendu, ces gens sont des victimes et ils ont faim.
Al-Hatin, le maire du quartier.
C'est le troisième jour et ce n'est qu'aujourd'hui que l'aide arrive.
Dans la file, Miné, 29 ans, attend son tour.
On n'a plus de maison, on est tous à la rue. On dort à 10 dans un véhicule, nulle part pour se réchauffer, il fait très froid. L'essentiel pour nous, c'est d'avoir de la nourriture, de l'eau, des couches. J'ai une fille de 6 mois.
Mehmet, un rescapé, juge que sa ville a été oubliée.
Cette aide arrive tard, comme l'épicentre se trouve à Marrache, tout le monde a été envoyé là-bas.
Dans la queue, la tension monte, une bagarre éclate, vite calmée par l'intervention de la police et la file de survivants exténués se reforme.
Timur Özturk en Turquie pour RTL.
Le sport est un classique au menu de la Coupe de France ce soir.
C'est l'affiche de ces huitièmes de finale. Marseille reçoit le Paris Saint-Germain au Vélodrome ce soir à 21h10. Avant ça, six rencontres débutent à 18h15. Angers, Nantes, Lyon-Lille, Auxerre, Rodez, Paris FC, Annecy et Toulouse, Reims. Le petit poussé Vierzon reçoit de son côté Grenoble, le dernier de ces huitièmes de finale.
Le derby du dictionnaire.
Dictionnaire.
Le derby du dictionnaire, Lorient-Lens.
Pourquoi ?
Parce que c'est deux L qui se rencontrent. Les supporters du 15 de France, eux, redoutent de ne pas pouvoir aller supporter les Bleus samedi face à l'Irlande dans le tournoi des Six Nations. Vous connaissiez Vincent?
Non, c'est pour ça que j'étais surprise, mais j'en apprends tous les jours avec vous, c'est agréable.
Cancan, c'est le derby du dictionnaire également, il y a des matchs comme ça.
Non, mais vous œuvrez pour ma culture et ça me fait plaisir. Tournoi des Six Nations, effectivement, samedi, Irlande-France, et vous le disiez, une partie des supporters des Bleus s'inquiète. Leur voyage est en effet menacé car l'aéroport de Dublin se dit incapable d'accueillir plusieurs avions affrétés spécialement pour la rencontre. Grégory Seveau, patron de l'agence de voyage MyCom, raconte cette situation pour le moins ubuesque.
On peut aller en Irlande, mais à Dublin, ils nous disent on n'a pas assez de personnel pour vous accueillir. Donc, le plus fou, en fait, c'est que l'aéroport de Dublin nous a donné des créneaux pour atterrir. Mais ils nous disent je ne vous prends pas sur l'aéroport de Dublin parce que je n'ai pas de personnel qui sert à traiter l'avion une fois qu'il a atterri, la gestion des bagages, le débarquement, etc. Et donc, ils nous disent pour gérer tous les avions, donc vous irez soit à Shannon, soit à Cork. Pour parler que de nous, ça concerne 4 vols, donc à peu près 800 personnes. Et après, sur mes confrères, je ne sais pas trop, je pense qu'il y a au moins 2 autres vols minimum qui sont concernés. Du coup, les Français, tous ces gens-là ont des billets entre les mains. Nous, on est agence officielle de la Fédération française de rugby, donc on peut vendre des packages avec les billets de match inclus, mais malgré tout, il faudra qu'on atterrisse et c'est ce contre quoi on se bat, ça n'a aucun sens en fait.
Propos recueillis pour RTL par Eric Silvestro, Irlande-France, ce sera à 15h15 samedi, à suivre évidemment en fil rouge sur RTL. Avant de parler de la météo du week-end et vos conseils de cet après-midi,
du week-end
déjà, oui, samedi, parce que je parlais de samedi à l'instant.
Ah bon ?
Bah vous non plus, on n'y arrive pas aujourd'hui Pascal, hein, on ne se comprend pas trop.
Je croyais que vous vouliez parler de la météo du week-end.
Non, on va parler de celle de cet après-midi, Peggy.
Oui, c'est déjà pas mal et en plus, on va continuer dans la lancée. Plein soleil pour quasiment tout le monde. Cet après-midi, alors je dis quasiment parce que c'est vrai que ça reste gris sur les Pyrénées-Orientales avec encore un peu de neige, mais à 900 mètres. On a quelques pluies résiduelles également dans les plaines du Roussillon avec quelques nuages. Et puis, le temps est perturbé sur l'est de la Corse avec des averses et de la neige à basse altitude. Sur l'ouest, ça reste ensoleillé et toujours un peu de vent près de la Méditerranée, des rafales à 70 km/h. Mais sinon, partout ailleurs, c'est du beau temps avec des températures un peu fraîches au nord. 3 degrés à Mulhouse, 5 à Nancy, 6 à Bourges, 7 degrés à Clermont-Ferrand ainsi qu'à Reims et Caen, 8 à Lyon, 9 à Tarbes, 10 à Perpignan, 11 degrés à Toulouse et Marseille et 12 à Nice.
Merci Peggy.
Je vous disais, Martial You, hier, que vous auriez du travail durant ce mois de février parce que les résultats des grands groupes tombent un par un.
Tous les jours,
ça va être des bénéfices records et c'est vrai que ça choque.
Mais on est content, non? Non?
Ça peut choquer dans ce climat de grandes tensions sociales, disons-le, mais vous allez nous expliquer.
Si on a peur d'avoir des entreprises qui vont bien, effectivement, ça choque.
Alors, on me reproche parfois d'être caricatural, mais là, je me demande qui l'est. Il est 12h43, à tout de suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL Midi. Pascal Pro et Céline Landreau.
Jackpot, plus de 19 milliards d'euros de bénéfices nets pour Total Energy l'an dernier, un record absolu pour le groupe pétrolier. Et le gouvernement qui saisit la balle au bond, vous l'avez entendu dans le journal. Bonjour William Galibert.
Bonjour Céline.
On vous retrouve à l'Élysée, William, en direct de l'Élysée. Le gouvernement demande donc une ristourne carburant au pétrolier à destination des automobilistes.
Oui, c'est ça. Alors, il faut un petit peu modérer les choses. Olivier Véran, il nous dit qu'il est très favorable à cette éventuelle ristourne que pourrait accorder Total. Et en même temps, et d'ailleurs, ça lui a été fait remarquer par l'un de nos confrères ce matin, il reprend mot pour mot tous les arguments du patron de Total pour justifier finalement l'absence de taxation de ces profits qu'on pourrait juger excessifs. C'est-à-dire qu'il nous dit, il nous répète, Olivier Véran, que eh bien le pétrole, on ne le trouve pas en France, que on ne va pas taxer des profits qui sont déjà taxés dans d'autres pays. Et puis il y a un autre paradoxe, c'est que Emmanuel Macron, ici même à l'Élysée, début janvier, s'était dit choqué par ces entreprises qui faisaient des profits, je cite, excessifs sur la base de la crise. Mais à chaque fois, eh bien, il n'y a pas de volonté de coercition, d'obligation. Il y a plutôt une volonté d'accompagner les entreprises dans les gestes qu'elles voudraient bien accorder aux Français. Donc oui, Olivier Véran se dit favorable.
Ah, je crois qu'on a perdu William Galibert, qui était donc en direct de l'Élysée et qui, j'imagine, allait nous expliquer qu'Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, comme vous avez pu l'entendre dans le journal de midi et demi, se disait favorable à une ristourne carburant à destination des automobilistes. Le gouvernement qui demande donc un geste, on peut le dire comme ça, Martial Youw à Total Energy. Ces bénéfices records, ils sont surprenants d'abord de la part du géant pétrolier français ?
Non, pas plus que ceux de BNP Paribas ou de la Société Générale.
Non, mais pourquoi ?
Pourquoi ils font des bénéfices ?
Il y a une hausse du prix des hydrocarbures.
Bien entendu.
Bien sûr,
le marché du pétrole a énormément progressé. On l'a tous vécu à la pompe pendant toute l'année dernière. Évidemment, si le pétrole se vend plus cher, les pétroliers font des bénéfices supplémentaires. Ils n'ont pas beaucoup plus cher.
Et c'est lié à la guerre, par exemple ?
C'est lié à la guerre, puisque c'est elle
donc
qui a provoqué.
Donc on peut considérer que ce sont des profiteurs de guerre ?
Alors,
non, je caricature un peu, mais...
On peut pas dire ça, parce que c'est pas lié... c'est pas des bénéfices qu'ils réalisent grâce à de l'armement, par exemple. Ils réalisent ces bénéfices-là parce qu'un des effets collatéraux de la crise en Ukraine, c'est précisément d'avoir fait flamber les cours du pétrole. Donc c'est en ce sens qu'ils en profitent.
Martial, le sujet n'est pas directement lié, mais il se trouve que dans les raffineries françaises de Total, il y a aujourd'hui un mouvement de grève contre la réforme des retraites. Des profits, pareil, est-ce que ça peut cristalliser encore un peu plus la tension sociale qui existe dans le pays, ou alors ça n'a rien à voir et il ne faut surtout pas tout mélanger ?
Il ne faut pas tout mélanger, première chose. Il faut essayer de parler à l'intelligence des gens et pas uniquement à l'hypersensibilité, parce qu'il faut quand même dire à un moment donné que ça commence à bien faire les caricatures un peu débiles. On va pas reprocher, quand j'entends Jean-Luc Mélenchon dire qu'il a honte d'avoir un milliardaire comme plus grosse fortune du monde, LVMH emploie quasiment 200 000 personnes. Donc il y a un moment, un milliardaire ne sert pas à rien, il a une entreprise qui lui permet d'être riche, certes, mais qui fait vivre des gens. Et là, chez Total Energy, il y a un mouvement qui est contre la réforme des retraites, qui n'est pas la même chose que le mouvement qu'on a connu en octobre sur les rémunérations. Je signale quand même, juste, parce que je sais bien que de toute façon, je vais passer pour le défenseur du gros capital, mais chez Total, la hausse de salaire est de 7% à l'issue de cette grève, c'est-à-dire deux fois plus que la hausse moyenne des autres entreprises et des autres salariés en France. Vous avez quasiment 8% du capital qui est possédé, enfin 7% qui est possédé par les salariés de Total, donc il y a de la redistribution, et vous avez 550 000 Français qui sont actionnaires de Total, qui donc aujourd'hui, grâce aux bénéfices
donc
de Total...
Donc vont toucher ces 19 milliards vont à tous ces gens.
Eh bien oui, bien sûr, il va y avoir versement de dividendes, ça énerve toujours tout le monde, et notamment l'extrême-gauche quand on parle de dividendes, mais en l'occurrence, vous avez 550 000 Français...
3,80 € par action.
Voilà, et qui se justifient puisqu'ils ont misé sur Total, et ils sont rémunérés sur le risque qu'ils ont pris.
Ça, c'est pour Total. On a parlé hier avec vous-même ici, Martial, de la BNP, qui elle aussi enregistrait des profits records et qui annonce aujourd'hui la suppression de 921 postes. Ça, c'est difficilement audible.
Là, je peux comprendre que ça choque, effectivement. C'est-à-dire que vous avez des entreprises qui réalisent d'énormes bénéfices et qui, à côté de ça, licencient. Alors, d'un point de vue économique, ça s'explique, parce qu'effectivement, c'est la branche Crédit Conso qui va faire les frais de cet arbitrage et de ces licenciements, et que c'est précisément, depuis quelques mois, la partie de l'activité de BNP Paribas qui est en difficulté. Parce que vous avez aujourd'hui plus de difficultés avec la hausse des taux d'intérêt à trouver des crédits conso qui répondent à la demande. Mais c'est vrai que là, pour le coup, je suis d'accord qu'on soit choqué qu'on vire 900 personnes alors qu'on fait des...
Martial, vous restez avec nous pour échanger comme représentant du grand capital avec les auditeurs à partir de 13h. Je comprends décidément rien à la bourse, puisque le cours de la bourse de Total baisse aujourd'hui, moins 1%.
Mais parce que les attentes, en tout cas ce qui était projeté...
On attendait plus que les 19 milliards. Voilà. Fichtre, mais vous ne nous dites pas tout. On pensait...
Ça, c'est les consensus, c'est
d'accord.
Des révisions.
Bon, est-ce qu'il y avait de la place pour monter à deux sur une planche ? Voilà une vraie question, et elle est posée ce matin sur l'antenne, depuis ce matin sur l'antenne d'RTL. Je parle évidemment de Titanic, de Jack et de Rose qui finissent sur la planche, mais l'un dans l'eau et l'autre avec un gilet de sauvetage qui se sauvera. Tout de suite.
Venez partager votre avis au 3210,
50 centimes la minute.
RTL.
Laissez-vous tenter midi.
La culture se met à table tous les jours dans RTL midi, et aujourd'hui...
On parle cinéma, puisque nous sommes mercredi. Bonjour Stéphane Boutsock.
Bonjour à tous.
Un petit point box-office pour commencer. Stéphane, avec le plus gros film français de ce début d'année, on en a beaucoup parlé, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, sorti il y a une semaine exactement. Quel premier bilan ? Ça marche ou pas ?
N'en déplaise à certains, oui, ça marche très bien même. 1 900 000 entrées en une seule semaine, c'est le plus gros démarrage d'un film français depuis 10 ans, chez nous, évidemment. Donc va maintenant, évidemment, falloir voir le bouche-oreille. Ce sont les vacances, donc il y a pas mal de monde dans dans les salles, mais c'est plutôt très, très, très encourageant.
Il y avait une petite polémique sur les chiffres. Oh, bah, oui. Pourquoi ?
Ben, parce que le premier jour, on vous donne les chiffres donc, du premier jour, de toutes les premières séances de France, mais les distributeurs, quels qu'ils soient, donc Pathé comme les autres, ajoutent les chiffres des avant-premières. Il y en a eu pas mal, en effet, pour Astérix. Donc, il y avait grosso modo 200 000 avant-premières qui ont été comptabilisées, mais le chiffre était quand même de 450 000 entrées, ce qui est assez colossal.
On en vient aux autres sorties du jour, oui. Stéphane. Comédie française, là aussi, Alibi.com 2.
De Philippe Lachaud et sa bande, c'est la suite d'un gros succès de l'année 2017. Je vous replace le décor. Alibi.com, c'est une agence qui est créée hein, dans l'histoire. Imaginons par exemple Céline, vous dites à Pascal, il faut absolument qu'on fasse une réunion. Et Pascal, il aura plutôt envie d'un week-end à la boule, hein, au hasard. Donc il vous dit, ben non, je peux pas, j'ai un séminaire. Et ben moi, je vais organiser pour Pascal un faux séminaire avec des faux billets d'avion, un faux décor. Et quand vous allez faire votre réunion par internet, vous croirez vraiment qu'il est quelque part en séminaire, alors que pas du tout. C'est un cas d'école, hein, ce que je vous propose, c'est pas...
Non, il refuse rarement les réunions.
Il refuse. D'accord. Voici donc la suite de ce film. Philippe Lachaud va se marier. Il a un peu honte de ses parents parce que sa maman est actrice porno et son frère est un... et son père est un escroc. Donc il va louer, il va s'inventer des faux parents. Tout ça, évidemment, va lui échapper. Ce qui est formidable avec cette équipe-là, qu'on appelle la bande à Fifi, c'est qu'il y a toute une nouvelle génération et puis il mêle d'autres générations. Donc dans le film, vous allez croiser Nathalie Baye, Didier Bourdon, Gérard Jugnot, Ariel Dombal qui joue la maman. Et je trouve ça marche absolument parfaitement. Il y a un sens de la vanne, il y a un sens du gag depuis 10 ans, depuis Babysitting, qui est totalement assumé. Écoutez d'ailleurs comment Philippe Lachaud bosse ce rythme-là.
Moi, j'ai une technique un peu particulière, un peu bizarre. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai le scénario, je mets des croix à côté de là où je pense qu'on va avoir un rire. Et la taille de croix par rapport à l'intensité du rire. Donc plus ma croix est grosse, plus je pense qu'on va avoir un gros rire sur cette vanne ou sur ce gag, tu vois. À 70-80%, je me gourre pas sur les croix. Parce que c'est un métier qui est très dur. Faut se dire, t'imagines, t'écris une blague et tu sais seulement 2 ans après si les gens rient dans la salle. Donc c'est costaud quand même. Donc quand tu te tapes un beat, c'est dur. Tu te dis, putain, 2 ans pour rien. Mais par contre, c'est vrai que quand ça marche, t'entends le rire dans la salle ou une explosion de rire, franchement, t'es fier de toi. Franchement, tu dis yes, yes, yes. On n'a pas bossé dans le vent.
Voilà donc pour Alibi.com. Là aussi, on va surveiller les chiffres parce que c'est un des films, une des comédies les plus attendues de cet hiver en France.
Et puis, vous l'avez dit, Stéphane, ce sont les vacances scolaires. Un film à aller voir en famille, peut-être Zodi et Théu.
Vraie comédie d'aventure qui plaira en effet au jeune public. L'amitié entre un petit garçon marocain et un dromadaire, figurez-vous. Un dromadaire qui va devenir un vrai champion parce que les courses de dromadaire dans le Maghreb et une partie des pays arabes, c'est vraiment une institution. C'est comme les courses de chevaux chez nous. C'est très, très, très bien fait. C'est Eric Barbier qui fait ce film. Le gamin est formidable. Le petit dromadaire, donc, Théu, est formidable aussi. Et puis on croise notamment dans ce film Alexandra Lamy qui joue une vétérinaire et figurez-vous qu'elle a vraiment été obligée d'aller au charbon, autrement dit au contact des dromadaires, animal mystérieux s'il en est.
C'est quand même un animal étrange. Hein. Personne ne dit « Oh, j'aimerais bien rencontrer un dromadaire ». Donc, se retrouver face à quand même un animal qui est quand même assez gros, impressionnant, on ne sait pas trop ce qu'il pense, ça vous regarde comme ça, même un peu prétentieux. Tu te dis, merde, est-ce qu'ils vont pas mort? En plus, Eric Barbier, qui a eu cette bonne idée, juste avant de tourner, qui me dit, c'est que c'est pas un animal facile, hein. Puis fais gaffe parce qu'il a de la mémoire. Et là, il me montre une vidéo, donc, d'un mec, qui est en train de se faire arracher la tête par un dromadaire. Juste avant la scène. Je lui dis, mais pourquoi tu me fais ça? Mais non, mais pour te dire quand même qu'il faut faire attention. Bon, allez, maintenant, vas-y. Et si tu peux mettre la main dans la gueule de l'animal? Et puis non, après, il y avait des vétérinaires sur place, ils m'ont montré les gestes. Et puis, c'est ça qui est génial dans notre métier, c'est qu'à un moment donné, il ne faut plus réfléchir, il faut y aller, quoi.
Alexandra Lamy à l'affiche donc de Zodi et Théu. Et pour les mélomanes, le film marque aussi les grands débuts de Mika, du chanteur Mika, dans la bande originale. Il signe absolument toute la musique du film.
On en vient au grand classique qui revient en salle donc aujourd'hui, Titanic, 25 ans après, avec cette musique mythique.
Aujourd'hui,
oui.
Alors, première séance avec les tout premiers chiffres dont on dispose, ce sont ceux de 9h à l'UGC des Halles. 7 entrées pour Titanic, mais attention, hein, y a la journée à venir, ce sont les vacances, ça va peut-être faire un peu de score ce soir. Bon, le film est passé il y a 2 mois à la télé en même temps, je pense qu'on l'a à peu près. Vous l'avez regardé, vous, Pascal ?
Oui,
c'est
oui.
Non, mais je connais l'histoire déjà. J'ai déjà vu.
je me suis laissé prendre.
Mais moi
sûr.
Aussi, je me suis laissé prendre.
Bah oui. Bon, il y a cette donc question que traitait ce matin Florian Gazan et qui déchire les fans du film depuis 25 ans. Est-ce que Jack,
aurait pu monter sur la planche.
Alors la réponse est oui, vous savez, puisque c'est James Cameron qui le dit lui-même. Il a reconstitué une scène, il a refait la planche à la dimension de celle du film. Il a engagé deux acteurs qui ont le même poids et la même morphologie que Kate Winslet et DiCaprio. Il les a mis dans l'eau. Et à la fin, bah oui, en effet, Jack peut monter sur la planche avec Rose, sauf qu'il est un peu plus lourd quand même, donc on ne sait pas si la planche ne va pas couler.
Elle bascule.
Il est resté quand même longtemps dans l'eau froide, il est en hypothermie, on n'est pas sûr qu'il survive. Donc oui, c'est possible, mais c'est pas gagné, en gros.
Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a été obligé de refaire un film.
Oui, mais non, enfin, il a fait un. En fait, il a fait un documentaire pour National Geographic. Incroyable. Oui, mais c'est marrant, je trouve ça. Bah, on va jusqu'au bout du truc.
Et vous avez dit, il l'a fait pour Géographique.
National Geographic.
Exactement. On peut le voir sur les réseaux.
Absolument, ouais. Absolument.
Merci beaucoup, Stéphane Moutsok. Et on vous retrouve la semaine prochaine, j'espère mercredi.
Tout à fait. Et puis ce soir, chez Julien Cellier, on reparlera de la planche magique de Monsieur Cameron.
Dans quelques instants, c'est vous qui prenez la parole au 3210. On va être avec Martial You et ses profs. Effectivement, qui font parler. La difficulté, c'est de ne pas tomber dans la pire des démagogies, bien sûr, sur un sujet comme celui-là. À tout de suite.
RTL Midi.